Qu'est-ce qu'une langue vivante ? J'écoute la radio ce matin et j'entends des gens qui parlent bien. Éléments de langage, phrases suturées, mortes paroles. L'un des livres de mon invité s'appelle justement « Mortes paroles ». C'est l'histoire de deux amis, mais c'est surtout l'histoire d'une langue. La langue de la jeunesse, la langue rouge, incandescente, vibrante. La langue qu'on ne saurait cultiver. C'est une langue vivante qui est tout entière du côté de la beauté. Mais qu'est-ce qu'elle devient cette langue au fil des années ? Est-ce qu'on peut la préserver, la réactiver ? Ou est-ce qu'elle n'est pas destinée à mourir ? Ce livre « Mortes paroles », c'est l'histoire de la parole de ces deux amis dont l'un va devenir professeur. Et par sa culture, son érudition, ses lectures... Il s'élève évidemment, mais sans s'en rendre compte, il éteint en même temps le feu de la langue. Et il y a un moment bouleversant où on comprend le pouvoir que ça lui confère pourtant la culture. Pour lui, c'est une revanche, cette langue cultivée. Une revanche sur quoi, vous me direz ? C'est compliqué. Peut-être une revanche, c'est écrit sur les mots imprévus qui tombent du ciel, viennent aux lèvres des ignorants, de ceux qui ont perdu la langue de leurs ancêtres, étouffé le patois des origines pauvres, boueuses, l'italien, l'arabe, le parler rude des ateliers, à l'usine, et n'ont pas gagné d'autres mots, neufs et faciles, communs et lisses, vont vivoter dans la honte, la crainte de ce qui pourrait leur échapper, les révéler, les trahir.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui, et ce texte en est le témoin, et de ceux qui interrogent la langue autant qu'ils la rendent vivante. Entrée en littérature il y a une vingtaine d'années avec Château perdu, il n'a jamais cessé depuis d'exalter une parole incandescente. Âge d'or, son nouveau roman vient de paraître aux éditions Fayard. C'est l'histoire d'un poète sans œuvre, d'un perdant magnifique confronté aux débris de ses révolutions rêvées. Bonjour Jean Védrine.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous n'imaginez pas comme ça m'émeut. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une langue vivante pour vous ?
C'est une langue qui échappe à tous les ordres de domination, à toutes les injonctions sociales. Vous me direz, c'est impossible. La langue, elle est sociale, d'abord. Nous parlons tous les deux, nous parlons à des milliers de gens. Mais dans la langue commune, il y a une part presque intime, presque privée. Dans Âge d'or, mon personnage, Georges, très souvent, il se tait avant de parler en disant je vais chercher les mots du tréfonds. Et ce qui me sidère, c'est presque la tragédie du parler ordinaire aujourd'hui, c'est que des langages, on va dire très vite, trop techniques, nous donnent des injonctions à être en permanence dans l'économie, dans une espèce de soumission au travail, et oublie ce que je dirais, ce que j'appellerais peut-être un peu rapidement la langue des origines, c'est-à-dire la langue rêvée de notre enfance.
Oui.
Ce que vous disiez tout à l'heure, bon, le côté boueux de la langue populaire. Au fond, dans tous mes romans, j'ai tenté d'approcher mon idée, ma musique, mon rêve d'une langue populaire.
Alors vous dites, effectivement, dans Âge d'or, que la langue est devenue ce corps anorexique, décharné, nettoyé et pourtant prétentieux.
Oui, les deux vont de pair. Quand on sait qu'on a perdu la beauté du verbe, sa chair, quand on entend certains hommes politiques, c'est évident, répéter sans arrêt une langue de bois, une langue ultra technique, on se dit que ces gens-là n'ont pas toujours parlé comme ça. Et moi, j'aimerais être une sorte de demi-ange et aller dans une cour de récréation, remonter le temps et entendre X, Y, que je ne citerai pas. Qu'est-ce qu'il disait à ses copains quand il avait 7 ans, 8 ans dans la cour de l'école ? C'est pas possible qu'il ait cette langue répétitive, injonctive, violente.
Mais vous,
en permanence.
Jean Védrine, on vous entend ce matin. Quelle langue est-ce que vous parlez ?
Alors écoutez, je parle deux langues. En fait, je parle... je dirais quand même une langue commune qui est souvent enflammée, ça c'est vrai. Et puis, j'ai ma langue intérieure. La littérature, pour moi, c'est très simple, c'est la vie intérieure par les mots. Et donc, souvent, quand je me mets à mon écritoire, à ma table de travail, eh ben, il y a quelques minutes, parfois une demi-heure, où je dois oublier les mots du monde.
Oui.
Même les mots de l'actualité, même quand elles me passionnent, m'intéressent. Même des mots que j'ai partagés avec mes plus chers amis. Il faut absolument que je plonge au tréfonds.
Mais ce serait une langue qui ravive les cendres d'un esprit de révolte qui n'est plus de ce monde, ou une langue qui serait un projet pour l'avenir?
Alors, surtout, oui, surtout la première partie de ce que vous me dites, c'est-à-dire une langue qui souffle sur les braises d'une révolte, parce que de toute façon, pour qu'il y ait une langue vivante, j'en reviens à votre question qui est la mère des questions, pour qu'il y ait une langue vivante, il faut qu'elle soit ardente.
Oui.
Et il faut que d'une certaine manière, elle soit risquée. Il faut même qu'on ait une syntaxe qui s'autorise quelques bourdes et quelques fautes, mais il faut qu'il y ait une syntaxe.
Mais l'avenir, oui. Vous le voyez comment? Vous le pensez comment?
Alors, la révolte, pour moi, n'est pas que du passé. On est forcément hérissé. Et je dirais que Georges, dans Âge d'or, est sans arrêt hérissé.
Votre personnage.
Oui, c'est le personnage principal d'Âge d'or. Il est sans arrêt hérissé par le langage des petits maîtres, des petits chefs qu'il croise. Et donc, c'est une langue insurgée, d'une certaine manière. Et il peut pas en être autrement. Donc, le projet d'avenir, c'est l'insurrection.
Oui.
Par le langage.
Alors, ce personnage, c'est un homme qui a pris part à la lutte armée en Italie pendant ce qu'on a appelé les années de plomb. Et on parle d'un âge d'or, puisque c'est le titre de votre livre. De quel âge d'or est-ce que vous nous parlez? Précisément, Jean Védrine.
Alors, moi, je ne parle pas au nom de Georges, mon personnage. Ça, je tiens à le dire. Ce personnage, d'une certaine manière, il m'a vraiment échappé. La première fois qu'il m'a parlé, c'était il y a très longtemps. Jamais je n'ai eu un tel compagnon littéraire. C'était il y a 17 ans.
Il parle quelle langue?
Alors lui, il parle une langue gauche, maladroite. Une langue empêtrée, pour une raison très simple, c'est qu'il est d'une terre un peu gauche, un peu maladroite, le Bourbonnais, le Bocage Bourbonnais. Et qu'il en a gardé une espèce de gaucherie, de précaution aussi vis-à-vis de la parole des autres, de grande attention.
Et puis il parle italien,
et
Jean
Védrine. Et l'italien a été pour lui la langue de la Révolution. Il s'est peut-être trompé d'ailleurs. Il n'a pas appris le russe, tout ça. Son meilleur ami était un fils d'émigré italien, d'ouvrier sidérurgiste qui avait émigré dans les usines de Montluçon. Et donc, il a cru que cette langue-là était la langue de la Révolution.
Alors, c'est pas un hasard chez vous, Jean Védrine, parce que ça apparaît dans presque tous vos livres.
Oui.
Cette langue, l'italien, vous lui vouez un culte, et vous en faites la langue de la Révolution et de la Résistance. Encore aujourd'hui?
Ah bah écoutez, ça peut paraître très paradoxal ce que je vais dire, mais oui. Oui, aujourd'hui, je dirais que ce qui se passe en Italie, bon, qui est assez terrifiant, le spectacle qu'on a depuis les années berlusconiennes, mais on a un peu oublié aussi ce qu'était l'omnipotence de la démocratie chrétienne pendant des dizaines d'années. Je crois pas que c'ait été beaucoup mieux dans l'exercice, on va dire, pour aller vite, du pouvoir, de la soumission sociale et des libertés primaires. Mais, oui, je crois qu'il y a, dans la mémoire italienne, quelque chose de partisans, des partigiani de la Deuxième Guerre.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en Italie, Jean Védrine?
Eh ben écoutez, ce que je ressens d'abord, c'est la beauté de la langue populaire. Des langues populaires. Parce que, bon, entre le Piémont, par exemple, Turin, où se passe une grande partie d'Âge d'or, et les Pouilles, qui ont été un peu mon horizon dans d'autres romans italiens.
Château perdu, L'Italie la nuit, ou encore La belle étoile, que j'invite tous les auditeurs de Boomerang à lire, bien sûr.
Eh ben écoutez, dans ces trois-là, par exemple, oui, j'avais le souvenir de la manière dont parlent italiens les gens des Pouilles, et j'ai toujours l'impression qu'ils me racontent une mémoire vivante, une mémoire de 1000 ans, une mémoire de 500 ans.
Vous rêvez aussi quand vous êtes en Italie?
Ah oui, sans arrêt. De toute façon, je suis un rêvasseur. J'adore rêvasser. C'est pour ça que je suis très lent dans l'existence. Je perds énormément de temps. Faire quelque chose, j'y résiste toujours. Et j'adore rêvasser. Et en Italie, je rêve l'écoute de cette langue. Et dans ce que je ne comprends pas, parce que je ne parle pas très très bien italien, j'ai jamais étudié à l'école, dans ce que je ne comprends pas, il y a justement ma part littéraire. On me dit quelque chose et je me dis, bon, ce beau visage là qui me parle, cet homme très marqué, édenté, tout ça, il est en train de me raconter 200 ans d'histoire de son village. Et peut-être qu'il m'a dit autre chose, peut-être qu'il a simplement commenté le temps qu'il faisait ce matin-là.
Celle qui ne sait rien de l'histoire dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est évidemment la culture et son actualité conservatrice, rétrograde et complètement timbrée. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 4 septembre, Jean?
Il n'y a pas de beauté sans vérité. Aujourd'hui, les gens, ils pensent, si on enlève tous les petits défauts, tous les signes de la vie de quelqu'un, les rides, n'importe quoi, et on dit ça, c'est beau. C'est le contraire, non?
Flash de fin. Le grand photographe Peter Lindbergh est mort mardi. Il avait 74 ans, pionnier de la photo de mode. Le maître du portrait en noir et blanc avait fait émerger dans les années 90 une génération de supermodèles dont Naomi Campbell et Cindy Crawford. Fasciné par l'émotion de ces sujets, Peter Lindbergh laisse derrière lui des images d'une beauté vraie, comme il disait, intemporelle, talent éternel.
Je pense à cette phrase d'un poète qui s'appelle Jean Lanselme, qui disait que la poésie et la beauté, on peut pas la décrire, mais on la reconnaît quand on la rencontre.
Cécile dans les nuages, le prix littéraire Le Monde a été remis hier à Cécile Coulon pour son dernier roman Une bête au paradis, paru chez l'Iconoclaste. L'auteur y donne le récit cruel d'un amour qui vire à la folie, explorant en creux les thèmes du féminin et de la transmission entre générations. Grand roman de la terre, Une bête au paradis figurait depuis sa sortie dans le classement des meilleures ventes de romans de cette rentrée littéraire, confirmant le succès de la jeune auteure auprès du public. C'est chic.
Uma tragédia no Rio de Janeiro. Você vai vendo imagens.
Résurrection à Rio, le musée national de Rio devrait rouvrir partiellement en 2022 pour le bicentenaire de l'indépendance du Brésil. Le bâtiment avait subi l'année dernière un incendie et déplorait la perte de plusieurs milliers d'objets d'une valeur inestimable. La restauration de la façade historique du musée et de son toit a déjà débuté. On estime aujourd'hui à 54% la part d'objets qui ont été sauvés des flammes. Moins pire que prévu, mais terrible quand même. Parlez-vous français? Et qui a dit qu'il y a que les Français qui parlaient français? Tiens, Paris n'est plus la première ville francophone du monde, figurez-vous. C'est désormais Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec ses quelques 12 millions d'habitants, qui compte la population francophone la plus importante. Une évolution qui confirme la montée en puissance de l'Afrique dans ce paysage culturel commun et qui mériterait de rapprocher les deux continents pour l'avenir. Et le romancier Jean Védrine, invité de Boomerang ce matin pour Âge d'or. Un roman, on l'a compris, qui surprend par sa langue, mais qui interroge aussi sur le pouvoir de nos croyances. Georges, votre héros, y croit au communisme, au point de s'engager dans la lutte armée en Italie. Vous, aujourd'hui, Jean Védrine, en quoi est-ce que vous croyez, tiens?
Bah écoutez, je n'ai pas les croyances de Georges, même si c'est un homme de ma génération. Et encore une fois, ce n'est pas de la rhétorique que de me distinguer de mon Georges, que j'ai du mal à appeler un personnage. Je vous le dis, il y a 17 ans, il s'est posé sur mon épaule, il m'a soufflé des choses, et des choses que j'ai suivies. Alors écoutez, en revanche, je partage avec lui la croyance dans la nécessité d'une révolution.
Mais le basculement dans la violence chez votre héros, oui, qui pourtant est un homme très doux, comment vous l'expliquez, vous?
Ben c'est le grand mystère, c'est là que peut-être je l'ai suivi le plus profond. Donc un homme très doux, très simple, qu'on appelle poète, que dans sa petite ville on appelle poète, mais sans œuvre, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais qui poétise sans arrêt. Comment cet homme a-t-il accepter de basculer dans la violence, d'avoir du sang sur les mains?
Peut-être qu'il est habité par quelques violences.
Oui, peut-être. Peut-être bien, et certainement aussi parce que il est l'héritier d'une longue histoire, celle des révoltes ouvrières et celle des révolutions européennes. D'une certaine manière, il revisite à sa modeste place l'histoire des révolutions.
Mais pensez-vous qu'il puisse exister des révolutions non violentes?
J'en doute. J'en doute. Georges, sans arrêt, par exemple, se réfère à 89, 93. Il a, dans son petit panthéon, un personnage tout à fait secondaire, mais dont parle beaucoup Michelet, qui s'appelle Legendre. Et ce Legendre, c'est un des héros de la Bastille. Et c'est à la mesure de Georges. Mais Georges réprouve la violence. Et il est tellement hanté par ça qu'il va se trouver toute une série de justifications, on va dire, et qu'il va se référer surtout à Manoukian, au groupe des FTP de l'affiche rouge. Et rappelant que Manoukian, par exemple, la première fois qu'on lui a demandé d'aller tuer un Allemand, il n'a pas voulu. C'est un travailleur sous uniforme, c'est un homme.
Et
je
puis,
ne tuerai pas.
C'est un écrivain. De quelles armes non violentes dispose l'écrivain?
Ah oui, mais alors l'écrivain, je pense, dispose d'une arme redoutable. Surtout aujourd'hui, dans le règne de la morte parole que vous évoquiez tout à l'heure. La langue insurgée, c'est-à-dire la langue qui échappe le plus aux codes et aux attentes j'allais dire des puissants, c'est un mot un peu sommaire, mais de tout ce qui nous domine et nous écrase.
Et puis la langue de la terre aussi, Jean Védrine, ce roman, il puise aussi sa force dans un territoire, ouais. Votre territoire, ouais. À savoir le Bourbonnais où vous êtes né, ouais. Et où vit encore votre mère d'ailleurs aujourd'hui. À quoi ressemble la ville de Montluçon, vous avez bien connu?
Ah, c'est un crève-cœur. J'ai connu une ville ouvrière avec 25 000 ouvriers, avec des dizaines d'usines, de grands ateliers. Et maintenant, moi, quand j'y suis, je dis pas que c'est la réalité. Et ce que voit Georges non plus, c'est pas du tout la réalité. Mais pour moi, c'est un désert. J'entends les anciennes usines sidérurgiques. Je vois encore la lueur rouge des hauts fourneaux que je voyais dans l'enfance de la maison familiale. On habitait à flanc de colline, au-dessus de la vieille ville, au-dessus de la vallée du Cher. Et de l'autre côté de la vallée du Cher, il y avait toutes les usines. Et elles ont été remplacées, comme souvent, par des supermarchés.
Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, cette évolution? Alors, ce monde qui change.
Alors, ça me raconte d'abord la disparition d'un monde et d'un type d'homme, de visage, de gestes et de paroles. Le monde ouvrier à la maison, puisque mon père était communiste, à la maison défilait, et que la porte était sans arrêt ouverte, hein, défilait des cheminots, des ouvriers sidérurgistes, des ouvriers de la chimie, parce qu'il y avait l'immense usine d'Alob, dont il reste juste un petit atelier aujourd'hui. Et ce monde, j'ai l'impression qu'il ne me parle pas seulement du XXe siècle, mais aussi du XIXe, et de leurs ancêtres paysans. Enfin, j'ai l'impression d'avoir eu un monde de 2000 ans, de 2000 ans d'histoire sous les yeux quand j'étais enfant. C'est la grâce qui m'a été faite, c'est absolument incroyable. Alors, on pourra dire c'est une vue de l'esprit. Ben non, parce que ces visages-là, beaucoup racontaient une très ancienne histoire et beaucoup de ces visages ont disparu.
Ça m'émeut parce que vous avez les yeux brillants ce matin, ouais. Quand vous en parlez. Ouais. Jean Védrine, quand est-ce que vous avez quitté cette ville de Montluçon?
Alors, je l'ai quitté à 18 ans. Pour monter faire mes études à Paris, donc c'est classique dans ma génération, et ça a été plus qu'un déchirement, ça a été comme un coup de hache. J'ai changé de monde et de siècle, d'un coup, en quelques jours.
Je vous pose la question, parce que dans Âge d'or, il y a ce passage assez fort où votre héros se souvient de ce qu'il appelle son dépucelage ferroviaire. Oui. Alors il a 9 ans et son oncle l'emmène à Paris, devant le mur des Fédérés au Père-Lachaise. Ce lieu d'ailleurs, Jean Védrine, qu'est-ce qui vous évoque, à vous?
Alors il m'évoque... Alors, ce roman n'est pas autobiographique.
Non, on a bien compris.
Mais, en revanche, ce sont des transfigurations de choses que j'ai vécues. La première fois que je suis allé au mur des Fédérés, j'avais pas 9 ans. J'avais quelques années de plus. Mais pour moi, il évoque peut-être le cœur toujours vivant de l'idée communiste. C'est-à-dire qu'il y a eu de simples gens, en 1871, qui se sont fait tuer plutôt que d'abdiquer leur idée de la justice, de l'égalité. La Commune de Paris, c'est un mythe, c'est une légende dans la mémoire politique et ouvrière française, mais c'est un peu la part sacrée de ces engagements-là.
C'est pour ça qu'il faut continuer à la dire, à la raconter, oui, cette histoire.
Oui, absolument, absolument. Il faut continuer à la dire, à la raconter. Je n'ai aucune prétention à la vérité historique. Hein. Mon personnage vit une espèce de mythologie. Oui. Permanente. Mais nous en avons absolument besoin. La vie serait d'une laideur absolue si on pouvait pas se raconter du matin au soir des histoires, bon, des romans.
Qu'est-ce qu'il y aurait de pire que l'oubli, Jean Védrine?
Oh, non, non, il faut rien oublier. il vaut mieux être accablé, accablé. Le poids du passé ou du passé immédiat, du quasi-présent, est énorme, parfois nous énerve, parfois nous écrase, mais c'est magnifique.
Vous avez peur d'oublier certaines choses?
Ah ouais, oui, très très peur. Alors là, devenir amnésique serait effroyable. Déjà, je sais qu'il y a des événements de l'enfance ou de l'adolescence que j'ai tellement brodé qu'à force je les ai gommés. Et je regrette. Plus j'avance en années, plus je regrette l'oubli. Non, l'oubli, surtout pas. Quitte à ne plus dormir et à passer 24 heures à écrire pour se remémorer et pour créer une espèce de mythologie de ce qu'on a traversé.
Alors on va faire œuvre de mémoire ensemble et reparler de tout cela évidemment juste après Jean Ferrat quand même, camarade. En 1969, vous êtes sur France Inter avec Jean Védrine. Vous écoutez Boomerang.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais. qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent, camarade. C'est un nom terrible, camarade. C'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais. Dans mon cœur battant la chamade pour qu'il revive à jamais. Ce mari cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'on est quelque part entre Winnie l'ourson et le prof de français, vous savez, qui vous distribue en douce et le sourire en coin des poèmes de Karl Marx, avec son air bonhomme et son nez rond, son œil rieur, que l'on devine pourtant prompt à s'assombrir. Il nous donne envie de partir bras dessus, bras dessous au café du coin pour discuter jusqu'au petit matin en sirotant un Perrier tranche, un grog ou un Leningrad Mule, qui est l'équivalent du Moscow Mule à la fête de l'Huma, avec sa chemise toute bariolée ce matin à fleurs bleues, l'écrivain Jean Védrine, invité de Boomerang pour H d'or, et vous nous plongez, Jean, dans l'histoire de Georges, on le disait, cet homme dont tout le monde se moque et que vous présentez comme un poète sans œuvre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un poète sans œuvre, au juste ?
Ça veut dire un homme libre, délié de beaucoup des chaînes qu'on s'impose nous-mêmes dans le travail, dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui, sans arrêt, entrevoit sur le visage des autres, qu'il ne connaît pas forcément, par exemple, quand il croise des passants sur les trottoirs de sa petite ville, il imagine leur vie dans un regard, dans une crispation du visage, dans un geste.
C'est une œuvre, ça.
Mais c'est une œuvre, c'est une œuvre permanente. Et le poète sans œuvre, c'est un peu nous tous. Nous devrions être des poètes sans œuvre, et nous pouvons. L'être. Et de ce point de vue-là, je suis héritier, de façon peut-être un peu infantile, de mes premières lectures des surréalistes. J'adorais, quand j'avais 12-13 ans, les exercices un peu simplés quand même parfois, de l'écriture automatique, ou cette école du regard, par exemple, Max Ernst, qui, regardant les fissures d'un mur, immédiatement va y trouver de la beauté, dessiner quelque chose. Regarder, entrevoir, écouter autre chose que ce qu'on est enjoint d'écouter ou de regarder, voilà ce que c'est que le poète sans œuvre.
Pourtant, vous avez commencé à écrire relativement tard. Quand est-ce que vous vous êtes dit qu'il était temps de donner naissance à quelque chose ?
C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire très tôt, quand j'avais 7 ans. J'ai écrit des milliers de poèmes, à peu près, jusqu'à l'âge de 27 ans. J'ai tout détruit. J'en ai gardé un peu moins de 100, parce qu'ils sont pas bons. Je suis un grand lecteur de poésie, puis il y a Philippe Jacoté, moi je vénère Philippe Jacoté, donc quand il y a Philippe Jacoté, je crois qu'il est quasiment impossible d'écrire de la poésie. Bon, et puis vers 30 ans, donc je continue à écrire, tout en sachant que je ne serai pas poète. Et c'est finalement quand j'ai repris ma langue d'enfance, avec toutes les rêveries et toutes les mythologies que j'ai dites, que j'ai pu commencer à écouter la voix de mes personnages et à en être le scribe très humble.
Pour vos parents, ça représentait quoi, le métier d'écrivain ou le métier de poète? Tiens.
Alors, je ne sais pas. Chez moi, mon père était ouvrier, ma mère institutrice. Chez moi, il y avait le culte des livres. Ça, dans la tradition communiste, de toute façon, c'est quelque chose de très très fort. Le culte de la littérature. De la littérature antique, de la littérature moderne, de la littérature française ou étrangère. Donc, chez moi, vouloir écrire n'était pas du tout scandaleux. C'était même bien. En revanche, en faire son métier, ça non. Il fallait quelque chose de beaucoup plus solide. Voilà ce que j'ai pu comprendre, deviner, hein, parce que beaucoup de choses ne se disent pas dans ce domaine-là.
Pourquoi vous écrivez, en fin de compte ?
J'écris pour trouver une langue et des personnages qui disent la beauté du monde. Parce que ce monde est magnifique. Et plus il s'en est dit, plus ce monde nous force à regarder ce qui est beau. L'autre jour, j'étais à Montélimar, la N7, en montant Montélimar, que des tôles à gauche, à droite, sur 10 km. Une horreur absolue. Et puis à l'horizon, les collines, les préalpes, la Drôme, d'une beauté sublime. C'était mille fois plus beau peut-être qu'il y a 100 ans, quand il n'y avait pas les tôles et les horribles boutiques qui bornent le National.
Vous écrivez aussi, Jean Védrine, pour ressusciter ceux qui vous ont précédé.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, ça peut paraître fou, mais j'entends des voix. J'entends des voix quand j'écris. Vraiment, j'entends des voix.
Vous appelez Jeanne d'Arc.
J'étais sûr que vous me diriez ça. Non, 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 ce ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas du même ordre. Elles ne sont pas du même ordre.
Ah bon ?
Non, non, elles ne sont pas du même ordre.
Vous êtes sûr ?
Je suis absolument sûr. Mais j'entends des tas de voix. Certains jours, c'est un cœur dans lequel je dois tout débrouiller et en saisir une. Et quand Georges a commencé à me parler, il n'était pas seul. Mais c'était le plus humble, le plus maladroit. Et en même temps, le plus entêté. C'est pour ça sans doute que je l'ai suivi.
Vous entendez aussi des voix dont vous vous souvenez ? La voix de votre grand-père, tiens, vous l'entendez ?
Oui, oui. Alors je l'imagine parce que je ne l'ai pas connu, mon grand-père aviateur, le pionnier de l'aviation.
Ah, vous avez inventé sa voix ?
Oui, je ne la connais pas, je ne la connais pas sa voix. Et, ben, il est mort en 1919, donc mon père n'avait que 7 ans et demi, donc, donc moi je ne l'ai pas connu, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il me parle. C'est vrai que j'ai inventé sa voix. Mais alors lui, c'est peut-être moins spontané parfois que des chœurs de voix qui me viennent simplement en croisant des gens dans la rue. Voilà.
Pourtant, c'est un texte sur votre grand-père, un héros de la guerre de 14, que vous nous avez écrit ce matin, Jean Védrine, et j'aimerais que vous nous le lisiez, si vous voulez bien.
Enfant, je joue à Jules Védrine, mon grand-père, un des premiers aviateurs. Un héros, j'entends dire le dimanche en famille. Un héros de 14-18. L'aviateur le plus casse-cou. Une offense aux Boches. Un anarchiste, on rajoute souvent rigolard. Une sorte d'anarchiste, on corrige aussitôt. Bien sec, bien froid. Comme si l'anarchie c'était mal. Héros, je vois à peu près. Jules n'est pas un homme ordinaire. Même pas le père ou ses amis, ses camarades, il préfère dire. Des géants pourtant, eux autres. Mais qui marche lent, travaille dur à l'usine, dans les trains. Héros, c'est de se glisser dans la boîte en carton-pâte d'un petit fuselage, de décoller quand ton moteur pétarade, et de voler tout seul, très haut, perdu dans les nuages. Et de tomber aussi, de se tuer, de faire le mort, comme il est arrivé au grand-père, le jour d'avril où un vent violent, le mistral de la vallée du Rhône, l'a empoigné dans le ciel, précipité au milieu des vignes et enfoui sous la terre. Pour le moment, Jules est suspendu dans le salon. Son portrait, un grand cadre noir et blanc, est accroché dans les hauteurs, au plus près du plafond, presque aux altitudes où il a voulu passer sa brève vie. Et tous les jours, des sommets où il plane, il me regarde en souriant. Une autre photo le montre avec ses ailes, celle de son avion, je veux dire. Et il y en a quatre, couplées l'une au-dessus de l'autre, de chaque côté du fuselage, deux fois plus que n'en ont les anges. Une ruse, évidemment, parce qu'il était très malin, Jules, et qu'il allait montrer aux angelots maladroits des églises comment s'y prendre pour éviter la panne, la chute, la déchirure des ailes. Mais le grand-père anarchiste, je ne comprends pas. Une fois, j'entends qu'il a baptisé chacun de ses avions « la vache ». Comme je ris aux éclats, on me coupe. Les vaches, c'est pas ce que tu crois. C'est une insulte, le nom d'oiseau qu'on lance aux flics pour bien les enquiquiner. Anarchiste, c'est celui qui n'aime pas la police. Mais alors, nous aussi, on est de l'anarchie. L'an passé, à Paris, il y a eu Charonne. Et le père, ses amis, racontaient tout le temps que les CRS étaient conduits en Asie, des vrais brutes, des SS. Je ne comprends pas. Tant pis, il faut que je demande au père. Si tu fais pas l'anarchie, comme Jules, qu'est-ce que tu fais, toi ? Il se tourne vers moi, il est tout doux. Je prépare la révolution, garçon. La révolution ? Première fois que j'entends le nom. Ça doit être le soir, quand les camarades se réunissent dans le salon. Je retourne jouer. La vie de Jules. Quand il survole le pays, les villes, les rivières. Pour faire comme lui, j'ouvre des cartes, des atlas, et il me montre les contours des montagnes, le nom des mers, des fleuves, la géographie des mots. Maintenant, quand j'écris, c'est lui qui trace les noms de lieux, l'amorce des histoires, des légendes.
Qu'est-ce que c'est un héros, Jean Védrine, en fin de compte ?
Un héros, c'est celui qui fait don de sa personne à quelque chose qu'il dépasse complètement.
Merci infiniment. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle, Cage d'or est publié chez Fayard. C'est une plongée inoubliable au cœur d'une langue absolument vivante. On l'a compris tout de suite. Les médias. Sonia
Merci
Desvillers.
À vous, Augustin.
Juste après ça. Earthquake, Tyler the Creator sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia.